d'avoir ça. Alors, les langues dans l'Europe nouvelle, vous savez peut-être, c'est l'ouvrage d'Antoine Meillet. Cet ouvrage, ou bien cette polémique qui a été suscitée par cet ouvrage dont je vais vous parler maintenant, donc à propos de la lettre ouverte de Giulio Stolani qui a été écrite en 1930. Et Costolani ne voulait pas raconter toute l'affaire, mais il faut savoir que Costolani était furieux à cause de l'ouvrage de Meillet, et cette fureur a motivé finalement certains de ses gestes, non seulement cette lettre ouverte dont je parle proprement dans cette communication, mais aussi plusieurs publications entre 1930 et 1932. Alors, je commence un petit peu par arrière. Léon Clusot fait que Meillet furieux de Costolani furieux de Meillet est décédé à peu près au même moment que Meillet. André Terrible, le critique du temps, a écrit un article dans la Nouvelle Revue de Revue en février 1937 qui dit que la mort de M. Antoine Meillet, le plus grand linguiste français, a coïncidé ou presque avec celle de M. Désiré Costolani, avec qui il avait soutenu quelques polémiques dont on n'a pas perdu le souvenir. Il s'agissait non pas de la dignité, mais de l'avenir de la langue moderne. Nous ne reviendrons pas sur ces pénibles querelles, moi non plus. Mais nous saluerons la disparition de deux esprits éminents que la grande presse a signalé avec quelques négligences. J'ai pourtant vu des articles sur M. Costolani, jusque dans les gazettes coloniales, et sur M. Meillet, des études émues et sérieuses qui rappelaient son esprit encyclopédique et sa puissance de synthèse, sa prodigieuse érudition dans tous les idiomes indo-européens. Slavisant, helléniste, ayant enseigné l'arménien et le persan, ayant publié une admirable histoire de la langue grecque, c'est un grand savant qui disparaît. Monsieur Costolani, dont on connaissait par ouï dire l'œuvre lyrique et surtout la francophilie militante, le bagage de traducteur, sera tôt ou tard l'objet d'une monographie en français. Alors donc, voilà, donc deux grandes personnes qui disparaissent au même moment. Un seul nécrologue pour les deux. Costolani, s'il avait. Costolani n'aurait pas été trop content de cette ironie du sort. Hein. Mais en fait, donc il ne sera pas content de l'ironie du sort. Mais j'avance et je voudrais vous présenter un petit peu donc, de quoi s'agit-il. Et pour cela, il faut que je change de diapo. J'ai déjà minutes. Donc, l'article de Costolani a paru dans New York, d'abord en droit, bien sûr, en 1930, en juillet, et après coup, six mois plus tard, dans la revue mondiale en français, traduit par Ladislas Gala. Donc, le début de l'article de Costolani dit ce que vous ne voyez peut-être pas, donc je vais le lire. Vous allez bien lire, de toute façon, je lis. Après la lecture de votre ouvrage, Les langues dans l'Europe nouvelle, je me sens moralement obligée, donc moralement obligée, attention, de vous adresser cette lettre ouverte. C'est dans un sentiment douloureux que je puisse la cause d'écrire cette lettre. Dans votre ouvrage, vous dénigrez la communauté spirituelle à laquelle j'appartiens et une langue qui est parlée par 11 millions d'êtres humains. Je parle un tantinet au nom de ces êtres humains. Voilà ce qui me donne du courage. De vos analyses, de vos constatations, mais surtout de vos allusions à notre adresse, il ressort que nous soyons, en quelque sorte, des parvenus présomptueux, selon vous. Notre production littéraire ne serait que du fracas. Notre langue déracinée et grossière n'aurait aucun passé et encore moins d'avenir. Et la seule brutalité des oligarches, serait parvenue à en différer, jadis, la disparition. Bien que celle-ci puisse encore être imminente et peut-être même souhaitable dans l'intérêt d'un principe supérieur. Alors, ils se sont moralement obligés, dans l'esprit d'une communauté spirituelle qui est définie par la langue hongroise, et il parle d'un intérêt, d'un principe supérieur de la part de Meillet, et on va voir très brièvement ce que c'est. Alors je tourne encore la page et j'arrive au plan de mon exposé et à la fois à la dernière ou aux dernières phrases de l'article de Costolani que j'ai mis en deux langues ici, mais je lis en français. Donc vous êtes français à nos yeux, donc il s'attache toujours à Meillet. Donc vous êtes français et à nos yeux, à nous qui avons été élevés dans l'admiration de cette civilisation éclatante, être français signifie être humain et juste. Nous réclamons justice, termine Costolani sa lettre. Alors, je n'examinerai pas les positions prises dans cette polémique de Costolani et Meillet, et je ne ferai pas de tableau d'ensemble non plus dans mon exposé. Ce qui m'a intrigué dans l'affaire, donc dans cette polémique entre Costolani et Meillet, c'est les lectures et les interprétations trop réduites que les critiques ont fait, surtout en anglais. Réduites dans le sens d'une mythisation du geste de Costolani qui va à la défense de la langue hongroise. Et il y a beaucoup de critiques, et la plupart des critiques louent le patriotisme de Costolani. Et ils disent que finalement Costolani a réussi à se mettre à la défense des valeurs de la littérature et de la culture hongroise. Et dans cette affaire, finalement, si je lis les positions, alors il y a évidemment Meillet qui est le anti-héros, il y a Costolani, il y a Sauvageau aussi qui est donc dans cette utilisation de l'affaire aussi, et un peu plus largement. Donc Sauvageau est un héros permanent et absolu de l'histoire. Là, je n'insisterai pas là-dessus dans cette communication. Et par contre, il y a Costolani qui est le héros et le super-héros de cette polémique. Et alors, je me dis que peut-être ces positions sont un petit peu trompeurs et réconciliées. Ce que je voudrais vous dire dans cette communication, c'est seulement une chose, c'est qu'il y a plein de contradictions dans cette polémique de la part de Meillet ainsi que de la part de Costolani, et ni l'un ni l'autre n'est meilleur que l'autre, pire que l'autre. Ce sont ces contradictions seulement que je voudrais vous montrer très brièvement. Donc je fais des remarques ponctuelles, il n'y aura pas de conclusion, donc il n'y a pas d'argumentation, c'est seulement une présentation de ces contradictions. Je terminerai à la fin, croyez-moi. Donc je parle des gestes motifs contradictoires. Le centre sera la carrière d'Antoine Meillet. Je me demande qu'y a-t-il comme linguiste et comme figure intellectuelle en France à sa période, et qu'a-t-il fait pour la langue hongroise et pas contre. C'est peut-être pas la seule qui ressortira le plus, mais croyez-moi qu'il a fait beaucoup de choses pour la langue hongroise. Et après, deuxièmement, il sera question de Sauvageau et de Costolani, leur relation, très brièvement, et après, pas de conclusion. Alors, Antoine Meillet, vous avez les dates de naissance et de décès. Donc, étudié à la Sorbonne à partir de 1885, et il suit en même temps les cours de Michel Bréal au Collège de France et de Ferdinand de Saussure et Sylvain Lévy à l'École pratique des hautes études. En 1890, il se rend en mission durant un an dans le Caucase pour étudier l'arménien moderne, et dès son retour, il est appelé à remplacer Saussure en grammaire comparée, cours qu'il complète à partir de 1894 par une conférence en iranien. Il obtient en 1902 la chaire d'arménien à l'École des langues orientales et succède à Préage en 1906 au Collège de France. Il restera au Collège de France, où il poursuit un enseignement de linguistique consacré à l'histoire et la structure des langues indo-européennes, parallèlement aux formations qu'il dispense à l'École pratique des hautes études. À partir de 1906, donc de la même date, Meyer marque son intérêt pour la définition des lois générales concernant l'ensemble de la linguistique et pour la relation que les différentes langues et les différents types de langues entretiennent entre eux, ainsi qu'au fait de civilisation que la formation des langues laisse voir. Il gagne une autorité importante parmi les linguistes et dans la vie intellectuelle. Meyer écrit dans son journal en 1901, il reste beaucoup de travail de détail à faire. Après avoir expliqué les langues indo-européennes, il reste à étudier toutes les autres familles. Mais cela n'apportera pas une manière neuve d'envisager les langues. Et de plus, cela n'intéresse là plus que très peu de gens. Donc, on voit la nécessité de l'étude des langues finno-ougriennes aussi. Donc, les langues finno-ougriennes en font partie. Donc, Meyer lui-même, il ne se fera pas spécialiste des langues finno-ougriennes. Donc, il se fait l'idée de trouver qu'il faut trouver un autre spécialiste et aussi qu'il faut fonder institutionnellement le finno-ougristique français. Donc, c'est trouver un spécialiste et fonder institutionnellement, ce sont en fait l'œuvre de Meyer qu'il a réalisée après. Dans le même journal, donc il a écrit ça dans son journal, et dans le même journal, à une autre date, il dit aussi organiser institutionnellement la linguistique française pour la faire la référence mondiale. Pour en faire la référence mondiale dans le domaine face à l'Allemagne. Et bien sûr, on est en 1901, il ne s'agit pas encore de la Première Guerre mondiale, mais il s'agit encore des expériences de la guerre de 1870. Mais en fait, face à l'Allemagne va rester le motif qui dominera entre les deux guerres aussi, en linguistique aussi bien et dans l'esprit de la propagande française en partie. Meyer incline progressivement pour un déterminisme social du changement. Il introduit un aspect sociologique dans la linguistique et étudie les motifs sociaux des faits de langue. Il définit le fait de langue comme un fait social. Et c'est de Durkheim qu'il prend la définition de fait social, et Durkheim dit « effet social, toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure ou bien encore qui est générale dans l'étendue d'une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. » Alors, ce qu'on voit chez Meyer dans sa vision des langues, dans sa vision des civilisations et cultures, c'est cette influence des langues et civilisations indo-européennes, c'est ce qu'il souligne, sur les langues et civilisations finno-ougriennes. Donc, finalement, cette influence indo-européenne reçoit un accent chez lui. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que dès qu'il commence à enseigner, il encourage les recherches sur les langues finno-ougriennes qui l'intéressent dans l'optique des langues indo-européennes, d'autant plus que cette branche de la linguistique donc, n'avait pas de spécialistes en France, et se servant en plus de l'allemand pour ses publications. Alors, un de ses étudiants de Meyer, Robert Gauthier, commence à s'occuper du finno-ougrien aussi, des langues finno-ougriennes. Mais en septembre 1916, peu après avoir, comme le dit Meyer dans son nécrologue de Gauthier, donc après avoir appris à utiliser avec une véritable aisance tout le groupe des langues finno-ougriennes et avoir publié deux articles qui montrent le parti que savait tirer Gauthier de l'indo-européen pour éclairer les faits finno-ougriens, Donc, il décède des suites d'une peste de guerre. Et donc, c'est ainsi qu'en 1918, Meyer fait appel à un lycéen, c'est Aurélien Sauvageau, qui a à peine 20 ans à ce moment, et qui suit ses cours désormais depuis 2 ans. Je change d'idée, oui, je vois donc j'ai 5 minutes, c'est ça. Et donc, donc il y a d'un côté ce besoin, pour ainsi dire, pour manière linguistique, de s'occuper des langues finno-ougriennes, ces convictions de savants, de scientifiques qui le poussent à étudier le hongrois aussi, évidemment. Et de l'autre côté, en fait, il y a aussi ces convictions politiques, et les deux, peut-être, ne se rencontrent pas tout à fait. Alors, en 1915, donc c'est déjà la période de la guerre, dans son article intitulé « Les langues et les nationalités », il déclare « Chaque nation slave s'est donnée au cours du 19e siècle une langue de civilisation qui répond à ses besoins ». Et en 1918, lorsqu'il compare dans une revue la situation linguistique en Russie et en Autriche, c'est le titre de son article, il souligne, parce que donc la raison de la comparaison est que la Russie est un empire à multilingue, comme l'Empire l'Autriche-Hongrie ou l'Empire austro-hongrois, donc quelle est la différence entre les deux? Donc, la différence, selon lui, c'est qu'on rencontre des populations de langues diverses donc, dans chaque chapitre, mais le russe, dit-il, est la seule langue de civilisation de l'immense majorité et souvent de l'unanimité de la population. Le russe a eu, au cours du 19e siècle, l'une des littératures les plus originales, des plus humaines, et il a été assoupli de manière à rendre aisément toutes les idées philosophiques, toutes les notions scientifiques. C'est une grande langue de civilisation moins connue que le français, l'italien, l'allemand ou l'anglais, mais qui peut rendre les mêmes services. En revanche, les langues de l'Autriche-Hongrie, et je cite, réunies par le hasard, aspirent à se dissocier et se refusent à accepter pour langue officielle et pour langue de civilisation le magyar ou l'allemand. Et pour lui, le magyar est sans aucun rapport linguistique, soit avec les langues slaves, soit avec une langue romane, et par son type, il est éloigné des autres langues de l'Europe qui appartiennent presque toutes au groupe indo-européen. Les propos qui se retrouvent dans l'Europe, les langues dans l'Europe nouvelle, sont présentes déjà dans cette réflexion dès le début du conflit mondial. Et Meyer, parmi ses activités à la frontière de politique et des langues, est appelé aussi comme expert pour contribuer à la définition des groupes, des langues et des frontières au moment des traités consécutifs à la guerre de 14-18. Donc il fait partie de ce comité d'études de 17 à 19 et de ce comité d'études que je cite un article, qu'est-ce que c'était, donc c'est par Chapoul le gouvernement et en liaison avec les diplomates et les militaires sur la question des frontières européennes d'après-guerre. Les plus grands géographes, historiens, politologues, professeurs dans de prestigieux établissements universitaires, souvent membres de l'Institut, étudiaient les données de toute nature qui pouvaient contribuer à éclairer la question ethnographique, par exemple, linguistique, économique, géographique, historique. Donc, Meyer fait partie, comme linguiste, de ce groupe de travail. Et, comme je disais, il n'y a pas de conclusion, donc c'est à cette période. Donc, les contradictions, et je ne sais pas si la contradiction sort déjà de ce que je viens de dire, mais quelle est la contradiction? Donc, je résume la contradiction. Donc, d'un côté, il y a ces convictions linguistiques, c'est de s'occuper du hongrois. Suite à cette idée, il fait tout pour fonder une chaire de hongrois à l'École des langues orientales qui se réalise là en 1930, mais il commence ce travail beaucoup plus tôt et tout au long de la guerre, il ne cesse pas de travailler là-dessus. Mais en même temps, ses convictions politiques sont tout à fait différentes. C'est une des contradictions. Alors, deuxième contradiction, et là j'aurais dû arriver à Costolani et vous montrer rapidement la contradiction à Costolani, c'est que Costolani fait ce jeu de publier une lettre ouverte au Or, il connaît bien Sauvageau, et au Or, il aura pu se servir de Sauvageau. Il faudrait que j'arrive à voilà. Donc, Costolani connaît assez bien Sauvageau, donc il l'a rencontré. Il aura pu demander à Sauvageau de l'aider à traduire le texte, mais il ne le fait pas. Et donc, quand il dit que je voudrais dialoguer avec Meillet dans la lettre ouverte, alors c'est un faux geste, puisque s'il aurait voulu, donc s'il avait voulu, alors il aurait pu écrire directement, mais il ne le fait pas. En plus, deuxième contradiction dans Costolani, c'est que il ne s'intéresse, donc quand il fait traduire à Ladislas Scala le texte de cette lettre ouverte, alors il réduit l'article à d'un tiers de ses propos et il laisse tomber les paragraphes qui renvoient directement à Trianon, au traité de paix. Deuxième contradiction. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et là, il aura fallu que j'arrive, mais je ne sais pas parce que c'est une recherche que je fais, une recherche qui est difficile dans les archives. Donc, il aura fallu que je vous dise aussi que c'est Ladislas Gara qui se met à l'aide de Costolani pour traduire. Mais enfin, en plus, je pense que c'est Gara qui place l'article de Costolani dans la revue mondiale en France. Donc, il a un rôle important qui est difficile en ce moment à éclairer. Donc, voilà les contradictions et excusez-moi de cette communication un peu disproportionnée. Et merci de votre attention.